de J'ai des infos.
Tu sais qu'aujourd'hui, la France est dans une situation de crise qui impacte tous les acteurs de l'économie. 3 millions de chômeurs en novembre 2016. 5% des sociétés marchandes ont choisi la délocalisation. Les faillites se multiplient et les déficits publics et commerciaux explosent.
Comment expliquer cette situation ? Est-elle due à un partage de valeur ajoutée trop défavorable aux entreprises qui ne peuvent plus lutter à armes égales avec nos partenaires européens ?
Tu as en partie raison. Alors que pendant les 30 Glorieuses, la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée progressivement très vite, et donc que les salaires, les profits, augmentaient. Les crises de 1973 et 2007 ont plongé l'économie française dans la récession. Puisque la croissance est très faible, entreprises et salariés sont mécontents. Les salariés considèrent que les salaires ne progressent pas assez. Les entreprises leur répondent que le coût du travail en France est trop élevé, ce qui explique le chômage et les délocalisations.
Je ne comprends pas, pourtant certains disent que les dividendes versés aux actionnaires en France explosent, que les entreprises paient trop cher leurs patrons et les top managers, donc que les inégalités ne cessent de progresser. Est-ce vrai ?
En partie, oui, les inégalités progressent. Pourtant, elles augmentent moins vite que chez nos partenaires.
Mais comment faire alors ?
La vraie question, c'est comment relancer la croissance. Pour cela, nos entreprises doivent être compétitives. Les prix des produits français sont trop élevés par rapport à leurs concurrents. Il faut donc stabiliser les salaires, mais en contrepartie, les entreprises doivent investir, faire de la recherche et gagner en compétitivité et en qualité.
Les différents reportages qui suivent vont nous permettre de clarifier la situation. Nous avons un reportage de Chloé et Jade qui va répondre à la question « La France se souvient-elle d'un partage de la valeur ajoutée trop favorable aux entreprises par rapport à ses partenaires ?»
Selon moi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2011, la France a enregistré le solde commercial le plus déficitaire de son histoire et un économiste expert du nom de Gilles Berset déclare que le socle de notre économie est cassé depuis longtemps. Au vu de ces éléments, la réponse est donc évidemment que oui, les entreprises qui n'ont plus d'argent pour se développer stagnent et l'économie plonge.
Je pense que vous exagérez. L'économie est en chute, on ne peut pas le nier. Mais il faut regarder autour de nous, voir le climat économique mondial pour avoir un avis objectif. Comme le dit si bien Mathieu Plain, un économiste de l'OFCE, on oublie vite nos atouts, et ils sont pourtant solides. Pour comparer, si on se penche sur les réels malades de l'Europe, comme la Grèce et l'Italie, on comprend que la France ne se porte pas si mal. De plus, en 2009, grâce à nos amortisseurs sociaux, nous avons moins souffert de la crise que l'Allemagne et le Royaume-Uni. Quant à notre natalité, elle est l'une des plus dynamiques de la zone euro. Nous ne sommes pas les plus à plaindre.
Nous ne sommes pas les plus à plaindre, mais on reste dans une période de crise. Et nos concurrents sont bien plus compétitifs que nous. La part des salaires dans la valeur ajoutée d'une entreprise est en moyenne de 61% en Espagne. Et elle est presque de 66% pour la France. Avec une telle différence, nos entreprises auront du mal à rivaliser avec celles d'Espagne. Nos produits ne sont donc plus compétitifs du point de vue du prix.
Bien sûr, mais on oublie un peu vite l'impact du pouvoir d'achat sur la consommation. Si les gens touchent moins d'argent, ils consomment moins. De plus, nous ne sommes pas dans la même configuration que l'Espagne, qui a un taux de chômage de 25% environ, alors que le nôtre est à peu près à 10,5%. Et encore, cette part du salaire dans la valeur ajoutée des entreprises françaises dont vous parlez, elle est passée de 75% à 66% en à peine 30 ans. Les gens doivent tout de même conserver un minimum de pouvoir d'achat. Et je tiens à rappeler que nous occupons une position médiane en matière de compétitivité hors prix, la 7e place à l'échelle internationale. Et que donc, nous restons compétitifs malgré les tarifs de nos entreprises. Quant aux impôts payés par les entreprises et les employés, qui représentent environ 18,8% du PIB, ils produisent et financent nos infrastructures, qui font bien des jaloux. Je vous accorde que nos charges sociales sont parmi les plus élevées d'Europe, mais ça compense, non ?
Alors certes, les impôts sont une part nécessaire au développement, mais nous restons loin derrière l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni en matière de compétitivité et qualité. Nos parts de marché s'effondrent depuis 15 ans et notre industrie s'écroule. N'oublions pas que l'Hexagone souffre d'une mauvaise perception des investisseurs étrangers. Il est donc difficile pour les entreprises d'attirer cette clientèle. Il faut donc baisser les prix et pour cela, réduire les salaires ou les charges sociales. Chose que l'État ou les salariés ont bien du mal à percevoir. Il est bien entendu pratiquement hors d'atteinte de rattraper l'Allemagne, mais quand on sait que sur 102 secteurs analysés, la France est compétitive dans 55 d'entre eux et qu'elle est derrière l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, le Pays-Bas et l'Italie, on se demande qui il va nous rester comme client.
Nos concurrents n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Comme vous l'avez dit, il sera difficile de rattraper l'Allemagne. Quant à l'Italie et l'Espagne, ils se sont engagés dans une politique de compression salariale en raison de leur taux de chômage explosif. De plus, on ne peut pas juger la France en analysant seulement 102 secteurs. Je terminerai par rappeler qu'un organisme d'expertise placé auprès du Premier ministre déclare que nos parts de marché se sont stabilisées, que le déficit commercial a diminué et que l'écart de compétitivité coût avec l'Allemagne, notre principal concurrent sur les marchés tiers, s'est réduit. Et encore, les entreprises reconstituent aujourd'hui leurs marges.
D'accord, merci Chloé et Jade pour votre reportage très complet. Nous accueillons Ximista et Laetitia, bonjour.
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 Vous allez nous parler de la répartition entre la hausse de l'investissement et la hausse des dividendes. Vous pouvez commencer.
Dis-moi, Ximista, c'est quoi un investissement ?
Un investissement, c'est l'action d'investir, d'acquérir de nouveaux moyens de production, d'améliorer leur rendement ou de placer des capitaux dans une action économique, dans une entreprise, etc. Et qu'est-ce que c'est un dividende ?
C'est la part des bénéfices nets d'une société versée aux actionnaires selon un montant fixé par l'Assemblée Générale.
T'as vu que Michel Sapin, le ministre des Finances, a dit que pour que les entreprises redeviennent compétitives, il faut qu'elles retrouvent leurs marges qui ont fortement baissé pour qu'elles puissent investir et embaucher. Et selon lui, toujours, avec le niveau qu'avaient atteint leurs marges, cela leur aurait été impossible.
Donc si j'ai bien compris, les entreprises sont en capacité d'investir grâce au CICE, mais est-ce qu'elles le font vraiment ?
Entre 1984 et 89, la part de l'EBE, les bénéfices, des entreprises dans la richesse créée, c'est-à-dire la valeur ajoutée, a augmenté de 29% à 35%. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, où l'investissement aurait dû augmenter, mais ce n'a pas été le cas, mais dans la même période, le taux d'investissement a stagné. Cela s'explique par une augmentation des dividendes à ce moment-là.
En effet, lorsque les entreprises françaises créent de la richesse, elles ne privilégient ni l'investissement pour préparer l'avenir et renforcer leur compétitivité, ni l'emploi, mais trop souvent la seule rémunération des actionnaires. Aujourd'hui, 85% des profits partent en dividendes. Cette proportion est en constante évolution depuis les années 80, où cette rémunération de dividendes s'établissait entre 30 et 40% environ. Les dividendes représentent aujourd'hui 2,6 fois plus que les investissements, alors que ce n'était que la moitié en 1980.
Selon le MEDEF, si aujourd'hui les entreprises... réservent la majeure partie de leurs profits aux dividendes, c'est parce que le prélèvement opéré sur les entreprises ne font qu'augmenter, et notamment les charges sociales, et notamment les charges salariales. Qui dissuade les entreprises à ne pas embaucher. En plus, en France, les entreprises sont freinées par la réglementation aussi bien sur le marché du travail que dans le fonctionnement des entreprises. Elles ne sont pas aidées par l'État, ce qui les découragerait à embaucher, etc.
Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi l'investissement ne repart pas. La répartition entre investissement et dividendes n'est pas équitable dans nos entreprises. En effet, les entreprises ont promis que si le gouvernement mettait en œuvre une baisse des charges, elles investisseraient et embaucheraient. Le gouvernement a appliqué cette charge, c'est le CICE. Or, les premiers résultats sont plutôt inquiétants. Ni l'investissement et l'embauche n'est en hausse.
Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, on va enchaîner sur Patrice et Alban. Comment la variation de la part des salariés influence-t-elle la création des emplois ?
Hey Alban, tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui.
Salut. Mon patron va encore baisser mon salaire. J'aimerais quitter l'entreprise.
Mec, tu sais que tu trouveras jamais un autre boulot avec les 3 millions de chômeurs.
Ouais, c'est pas faux.
Mon pauvre. Au fait, tu sais pourquoi il veut baisser ton salaire ?
Bah, j'ai entendu dire que le gouvernement a mis en place le CICE, je crois.
Ah, ouais, je vois. Ça fait déjà pas mal de temps que le système est mis en place, pourtant. Et puis, ça n'a pas trop de rapport avec ton salaire.
Pourtant, mon patron m'a dit ça.
Je crois qu'il t'a enfumé, parce que le CICE permet juste aux entreprises de payer moins de charges pour embaucher plus. Les salaires n'auraient donc pas dû baisser, mais certaines entreprises en ont profité pour faire baisser les salaires.
Oh, et qui dit moins d'argent, dit moins de pouvoir d'achat.
Et donc moins de consommateurs.
En effet.
C'est pour ça que la croissance de la France est quasi nulle. Les entreprises n'ont plus de clientèle et doivent fermer en France pour s'implanter dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère et où la demande est plus élevée.
Oh là là, tout ça parce que le salaire minimum est trop
haut ? Non, effectivement.
Mais il me semble, en fait, j'en suis sûr, qu'en Allemagne, ils ont instauré le salaire minimum et que ça a plutôt bien fonctionné.
Sérieux ? Vas-y, explique. Parce que là, j'y crois pas trop.
Depuis le 1er janvier 2015, le gouvernement allemand a décidé d'instaurer le salaire minimum.
Personne n'a crié au scandale ?
Attends. S'il y en a eu. On présidait même des centaines de milliers d'emplois perdus.
J'imagine que ça ne s'est pas passé comme ça.
Quel génie ! Au contraire de cette prévision, les embauches ont grimpé et le chômage a bien diminué. Il a diminué, touchant un plancher de 4,5% maintenant.
Et naturellement, les salaires ont augmenté, non ?
Yep. Les salaires ont drastiquement augmenté, surtout dans la métallurgie. En somme, les entreprises allemandes arrivent à embaucher et d'augmenter les salaires des employés.
Si ça, c'est pas fou.
Maintenant, l'Allemagne est hyper compétitive dans l'Europe. Les employés allemands se permettent d'acheter les biens qu'ils ont produits et aussi de les exporter.
En gros, si on voyait ça d'un œil naïf, on se dirait que baisser les salaires permet d'embaucher davantage.
Alors que non, comme le cas de la France.
Mais au contraire, qu'il faudrait augmenter les salaires comme l'a fait l'Allemagne.
Piou, c'est compliqué.
D'accord, merci. Donc maintenant, nous accueillons Noémie, Elisa et Ajar pour le débat. Donc présentez-vous. Bonjour Ajar.
Bonjour, moi c'est Ajar.
Qu'est-ce que vous représentez
Bonjour, moi c'est Ajar et je suis ici en tant qu'économiste et représentant d'État.
Nous allons continuer avec Elisa, qui est un syndical salarial.
Bonjour, donc je suis un syndicat de salariés.
Merci. Puis Noémie.
Oui, bonjour Mathias, bonjour Marina. Donc moi je suis la représentante des patrons, donc voilà.
D'accord, donc on va commencer le débat. Qui commence ? Ajar ?
Oui, notre pays, en effet, a enclenché un mouvement de réformes, comme on peut voir avec la CICE, c'est Crédit d'impôt des compétitivités, qui assure aux entreprises une baisse de charges sociales équivalente à 6%. Et on peut voir aussi avec la loi du travail, qui a permis de rendre le marché du travail moins rigide et donc va inciter les entreprises qui n'embauchaient pas auparavant par peur de ne pouvoir licencier et de créer des emplois.
Mais comment voulez-vous que les entreprises restent compétitives avec des charges sociales, des impôts de plus en plus élevés, prélevés par l'État et des salariés qui manifestent tous les deux jours
afin d'élever leurs revenus? Ces cotisations étouffent l'entreprise.
Qu'en pensez-vous, Elisa ?
Oui, mais si on baisse encore plus la part des salariés, qui a déjà beaucoup chuté entre 1982 et 2010, l'entreprise pourrait couler, car les salariés étant déjà peu satisfaits de leur salaire pourraient démissionner, en particulier les plus performants, ceux qui n'auront pas de mal à retrouver un emploi. Ou alors ils partiront à l'étranger, puisque les entreprises des pays voisins, par exemple en Allemagne, sont plus généreuses. Donc si toutes les entreprises sont en manque de main-d'œuvre qualifiée, alors elles auront une baisse considérable de leur compétitivité qualité et les exportations chuteront et le PIB lui-même va baisser.
Tout à fait. Il faut prendre en compte que de plus en plus d'entreprises mais aussi d'employés délocalisent et s'installent à l'étranger puisque les normes salariales sont trop rudes et la concurrence trop importante. Donc si les salaires progressent moins, c'est dû à deux problèmes. Donc un problème d'équité, c'est inciter le capital à être investi, et un problème d'efficacité. Le capital des entreprises ne peut pas être modernisé puisqu'elles n'en ont pas les moyens. Donc si vous acceptez un salaire qui ne progresse pas pendant un certain temps, l'entreprise va pouvoir s'enrichir, créer plus de produits et acheter plus de biens.
D'accord, ok. Donc Elisa, qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Vous pensez probablement qu'une entreprise a intérêt à diminuer ses salaires, donc elle va gagner en compétitivité-prix. Oui, et donc vendra davantage, comme vous l'avez dit.
Oui.
Mais si toutes les entreprises font de même, des effets néfastes apparaissent. Aucune ne gagne en compétitivité-prix. Mais comme le salaire diminue de manière généralisée, la population voit son pouvoir d'achat baisser et consomme moins. Et ça réduit les ventes des entreprises.
J'ai une question à vous poser. Donc pour vous, les salaires vont impacter directement la compétitivité européenne ?
Oui.
D'accord.
Moi, j'ai quelque chose à dire. Si les salaires ne progressent pas, c'est pour pouvoir l'emporter sur la concurrence et développer l'emploi. Donc le B2B, le business to business, en France, est développé. C'est les entreprises qui s'aident mutuellement. Donc voilà, ça aide.
Ajar, qu'en pensez-vous ?
Oui, mais moi, je pense que pour... Je suis d'accord avec vous, madame la représentante des patronats, et oui. Avec vous aussi, madame Elisa. Mais pour agir sur tous les leviers, pour augmenter cette croissance économique, mais surtout sur l'investissement, qui est un levier essentiel pour notre pays.
Moi, j'aurais une question à vous poser à propos du B2B. Comment voulez-vous que si les entreprises déjà ont du mal à vouloir s'aider toutes seules, comment voulez-vous qu'elles aident les autres ?
C'est l'entraide qui les aide, en fait. C'est l'entraide. Par exemple, une entreprise qui va créer des chaises, il lui faut plusieurs matériels. Et au lieu de le faire venir de l'étranger, elle va aider les autres entreprises en lui achetant du bois, du fer, etc. Donc, c'est l'entraide entre les entreprises.
Mais les produits ne sont pas plus chers si on les achète en France qu'à l'étranger ? Enfin, c'est pas un coût plus.
Telle est la question. C'est là, justement. Normalement, elles s'entraident mutuellement. Donc, elles mettent le prix parce qu'elles savent que c'est de la qualité française, justement. Donc, il n'y a pas de problème sur ce sujet.
D'accord.
Ajar, est-ce que vous avez un avis par rapport à cette nouvelle stratégie ? Ou
à la stratégie ?
À cette stratégie dont on vient de parler.
Je pense que cette stratégie, elle pourrait davantage servir pour augmenter cette croissance. Et surtout, il y a une stratégie aussi qui est mise en place, c'est la stratégie de l'investissement qui, dans les secteurs clés, est appuyée sur une gouvernance efficace et des instruments diversifiés pourrait en effet y remédier.
Oui, mais pour vous... Le fait que les entreprises vont investir, est-ce que ça ne va pas encore réduire les salaires des employés ?
Non, au contraire, je pense que baisser le salaire des employeurs servirait davantage pour que les entreprises puissent investir de plus.
Mais la question, c'est savoir si les employés sont prêts à revoir leur salaire.
Je serais d'accord de baisser les salaires, mais pas pour.
Oui, continuez, Noémie, continuez sur votre.
Donc, la question c'est est-ce que les employés sont prêts à revoir leur salaire, sachant qu'il faut prendre exemple sur nos voisins allemands qui, eux, atteignent le 0,4% du PIB. Mais avant d'avoir cette croissance extraordinaire, ils ont d'abord dû avoir avoir la stagnation des salaires. Ils n'ont pas tout de suite eu des résultats exceptionnels.
J'aurais une question, moi. Les Allemands, on se idéalise toujours sur les Allemands. Mais est-ce que leur façon de marcher irait très bien à la nôtre ? Enfin, ça peut être différent à chaque pays après. Enfin, c'est...
En fait, je pense que, comme en France, on a tout essayé, autant regarder sur nos voisins. Donc, comme les Allemands, il y a 10 ans, c'était le malade de l'Union européenne. Vous voyez que maintenant, actuellement, ils sont le quatrième pays mondial en économie. Donc, ils sont notre modèle.
Oui, mais après, la méthode allemande, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème directement au sein de la France ? Est-ce que la France n'est pas... ils n'ont pas une stratégie qui est unique pour l'Union européenne ?
Si, il y a un problème, puisqu'ils veulent baisser la part des salaires, mais ils passent une trop grosse part aux actionnaires. Donc, au lieu de valoriser le capital pour acheter des machines et faire progresser
l'entreprise.
Oui, d'accord. Okay. Ajar, qu'en pensez-vous par rapport à ceci ?
Moi, je pense que les entreprises doivent jouer, en effet, les jeux. Et quand les coûts de travail baissent, il faudrait que la CICE, elle embauche. Et maintenant, il faut qu'elle baisse leur prix pour être plus compétitive et qu'elle investisse plus pour l'avenir, pour notre avenir.
Oui, l'État est trop présent dans tout ce qui est cotisation et ça étouffe les entreprises. Donc, voilà. Je ne sais pas si l'État allemand est aussi présent dans les entreprises, mais les entreprises françaises se plaignent de ça. Il faut donner plus de pouvoir au patron.
J'aurais une autre question encore. À propos des micro-entreprises, il y en a de plus en plus qui sont en train de faire faillite.
Oui.
Parce que, justement, elles n'arrivent pas à s'en sortir, elles sont trop petites. Et les grosses entreprises mangent les petites.
Comment oui, tout à fait. Moi, je pense que les grandes entreprises, et la représentante des syndicats ne sera pas contre moi, les grosses entreprises ne créent pas d'emplois, au contraire. Elles créent du chômage, contrairement aux petites qui, elles, auraient pu créer des emplois, mais elles finissent par faire faillite parce que, justement, la concurrence est trop rude et tout ce qui est les charges salariales de l'État prélevées par l'État sont trop importantes. Elles ne peuvent pas survivre.
Oui, mais on a parlé du CICE. Est-ce que le CICE ne peut pas aider les petites entreprises?
En l'occurrence, non. Vous voyez bien que non, puisqu'il y a plus en plus d'entreprises qui mettent la clé, les petites entreprises qui mettent la clé sous la porte.
D'accord. Merci beaucoup les filles pour ce débat. Nous allons encore enchaîner sur un reportage de Amy et Camille qui va parler du sujet « En quoi l'évolution du partage de la valeur ajoutée contribue-t-il à la compétitivité des entreprises ?»
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Dis-moi Camille, alors, est-ce que tu peux m'éclairer sur le sujet du CICE ? Tout le monde en parle depuis tout à l'heure, mais je suis un peu perdue.
Mais tout d'abord, le CICE, c'est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le gouvernement français, il a été confronté à une dégradation du commerce extérieur et à une multiplication des délocalisations. Selon le MEDEF, la raison était que les charges sociales et la législation sur le salaire minimum font que le coût du travail est trop élevé en France. Les entreprises françaises sont donc incapables de lutter à armes égales avec leurs concurrents européens. Et encore, je ne te parle pas des pays émergents comme la Chine. Le gouvernement a alors mis en œuvre une politique visant à accroître la rentabilité des entreprises en leur accordant des baisses de charges. C'est un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
C'est donc une incitation pour toutes les entreprises employant des salariés à embaucher et à aller à la conquête des marchés étrangers. Vu qu'il y a une baisse du coût du travail, il y a donc une augmentation de la compétitivité, donc des parts des marchés des entreprises exportatrices.
Oui, pour faire face au coût d'entrée sur les marchés étrangers, à plus long terme, cela aura un impact sur les investissements, la recherche et développement. Donc cela produira des améliorations de la compétitivité, qualité et donc permettra une augmentation de la marge des entreprises. Grâce à ces mesures, on peut espérer, d'après l'OFCE, voir les exportations augmenter de 1,5 à 5 milliards d'euros, ce qui équivaut à une croissance du PIB de 0,25% supplémentaire.
Donc si je comprends bien, suite à cette baisse du coût du travail qui assure celle du coût de production, l'entreprise pourrait réduire ses prix, augmenter ses parts de marché à l'export, donc augmenter sa marge ou embaucher.
En effet, on constate que pour augmenter notre part dans le marché, il faut compresser les salaires comme le montrent les politiques menées en Espagne ou en Italie par exemple.
Mais je crois que la France a de plus en plus de difficultés à attirer les investisseurs étrangers puisque sa compétitivité est en baisse.
Oui, et tu sais pourquoi ? Eh bien, le coût du travail, la complexité administrative et fiscale, le manque de dialogue social et la rigidité du temps de travail conduisent à une impasse pour la France tant qu'elle ne réussira pas à changer ça. Le déficit de la balance commerciale ne cessera pas d'augmenter.
Donc, la position de la France se dégrade par rapport à celle du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Mais cela s'explique-t-il par un niveau du coût de travail trop élevé ? En effet, j'ai vu que le manque de compétitivité de certains produits ne s'explique pas par son prix trop élevé, mais par un facteur primordial pour la vente, c'est-à-dire la qualité du produit, d'après une étude récente.
En effet, le Conseil d'analyse économique place la France 7e en termes compétitivité hors prix et montre donc la place qu'occupe la France au niveau de la compétitivité qualitative. L'évolution est inquiétante puisque l'on observe depuis 2008 un décrochage dans certains secteurs comme l'électronique par exemple.
Donc en conclusion, Camille, on peut donc dire que la baisse du coût du travail est aujourd'hui une nécessité pour rester concurrentielle sur certains produits avec les Espagnols, mais qu'elle ne sera en aucun cas suffisante. Il faut viser une compétitivité qualité, vendre cher des produits reconnus comme le font si bien les Allemands.
D'accord, merci Amy et Camille pour cette explication très intéressante. Maintenant, nous accueillons Morgane et Léa, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler de comment l'évolution du partage de la valeur ajoutée influence-t-elle les inégalités.
Bonjour Léa. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler des inégalités en France. Selon vous, en quoi l'évolution de la valeur ajoutée influence-t-elle ces inégalités?
Bonjour Morgane. Alors déjà, on peut dire qu'il n'y a pas de réponse unique et simpliste, puisque la valeur ajoutée n'est pas le seul déterminant expliquant l'évolution des inégalités en France, même s'il reste quand même un critère important.
Peut-être que nous pourrions commencer par un exemple concret, une étude de cas, pour bien faire comprendre à nos auditeurs le lien entre les inégalités et la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, M. Gosne, le PDG de Renault-Nissan, a fait parler de lui en 2016 en affirmant qu'il n'était pas assez payé.
Tout à fait. Ça s'est passé le 10 juin 2016. En effet, il gagne seulement 15 millions d'euros par an, soit l'équivalent de 1000 smicards seulement. Alors, il a interpellé l'État, actionnaire de Renault, en disant que s'il travaillait aux États-Unis, il pourrait gagner au moins deux fois plus. Le salaire annuel de Tim Cook, patron d'Apple, est élevé à 95 millions de dollars. Et que dire des salaires des patrons de hedge funds de Wall Street qui engendrent plus d'un milliard de dollars par an?
C'est sûr qu'avec 15 millions d'euros, on vit dans la misère. Mais qu'a fait l'État actionnaire?
Eh bien, l'État n'a rien fait de concret,
mais il pourrait accepter de voir le salaire de M. Gosme augmenter car il ne veut surtout pas perdre ses patrons les plus performants.
Mais quelles seraient les conséquences si la France perdait ses meilleurs patrons ?
Déjà, selon le MEDEF, ce sont les patrons qui impulsent la création de la richesse en France, en innovant, en investissant, en mobilisant leur équipe. Dès lors, s'ils partent, cela impactera fortement sur la compétitivité des entreprises et à terme, la croissance et le chômage. Le problème est alors une simple question de mise en concurrence des économies. Si les entreprises ne rémunèrent pas assez les patrons, ils vont faire comme Drogba ou Martial et les autres footballeurs de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'ils iront dans les pays où on les paye plus et où ils seront moins taxés, par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Donc vous nous dites que l'État n'a pas les moyens d'agir, qu'il ne peut pas réglementer les salaires des patrons ou des footeux.
Oui, tout à fait. Seul un code de bonne conduite qui est inefficace est proposé par le MEDEF.
On comprend mieux maintenant pourquoi les Français considèrent qu'il y a trop d'inégalités. Pourquoi il existe un réel fossé entre les rémunérations des patrons et celles de leurs employés. Mais comparativement aux autres pays, la France est-elle aussi inégalitaire que le pensent les citoyens ?
Pas vraiment. En réalité, nous ne sommes pas un pays si inégalitaire que ça. On a un coefficient de Gini de 0,31, alors que la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique est de 0,32.
Ce qui veut dire au final ?
Que nous sommes en dessous de la moyenne, que d'autres pays sont largement plus inégalitaires que nous. En Allemagne, par exemple, les inégalités augmentent beaucoup plus vite qu'en France, alors que le chômage baisse.
Avez-vous un exemple précis pour nous expliquer votre raisonnement et pour bien le faire comprendre aux auditeurs ?
Bien entendu. On doit regarder l'évolution de la part du travail dans la valeur ajoutée, c'est la rémunération totale, y compris les cotisations sociales du travail effectué. Par exemple, des années 90 au milieu des années 2000, la part du travail a diminué partout en Europe, mais beaucoup plus en Italie, où elle diminue de 5% qu'en France, où elle n'a baissé que d'un petit pourcent. Donc on présente peu d'inégalités, mais les entreprises considèrent que le coût du travail est trop élevé.
Mais les salariés ne râlent pas alors quand le salaire stagne et que ceux des patrons ne cessent de monter.
Effectivement, le fossé est de plus en plus grand. Par exemple, aux États-Unis, les top managers gagnent en moyenne 10 fois plus que les salariés moyens. En France, ils ne gagnent que 7,5 fois plus que les salariés. C'est énorme, mais est-ce nécessaire ? Faut-il en France plus d'inégalités pour essayer de rattraper les États-Unis ? Les USA représentent-ils le modèle à suivre quand on le voit mécontentement que Les USA représentent-ils le modèle à suivre quand on voit le mécontentement que traduit l'élection de Donald Trump ? Après, il est vrai qu'en France, les salariés râlent, bien évidemment, mais on comptabilise 3,5 millions de chômeurs qui vont se mettre en grève pour revendiquer une hausse de leur salaire et une baisse de celui du patron.
Très bien, merci pour vos explications qui, j'espère, auront permis d'éclairer nos auditeurs.
Merci beaucoup les filles. Maintenant, on va encore enchaîner sur un dernier reportage de Clara et Chloé. La croissance de la valeur ajoutée influence-t-elle la pauvreté ?
Chloé, on s'attend à ce que la croissance économique diminue la pauvreté. Est-ce le cas ?
Oui, c'est bien ce que l'on constate puisque l'INSEE montre que le nombre de pauvres et le taux de pauvreté ont fortement baissé entre 1970 et le milieu des années 90. Le taux de pauvreté au seuil de 50% a diminué de 5,4%. Et le nombre de pauvres au seuil de 50% de plus de 2 millions de personnes.
Oui, mais ce mouvement de baisse semble s'être arrêté. Le nombre de pauvres en 2004 et 2012 a même fortement augmenté, puisqu'il a cru d'un million au seuil de 50%. On comptabilise 9 millions de pauvres en France en 2014 au seuil de 60%.
Hein ? 9 millions ? Comment ça se fait ?
Car les liens entre croissance et pauvreté sont complexes. Le taux de croissance a augmenté en moyenne de presque 2% par an entre 1982 et 2012, ce qui signifie qu'en 30 ans, le volume de la production des biens et services marchands fut grosso modo multiplié par 2. D'un point de vue matériel, la France continua donc de s'enrichir. Pourtant, malgré cette croissance, le chômage s'est envolé. 1 million de chômeurs en 1976, 2 millions en 1982, 3 millions en 1992 et plus de 3,5 millions depuis 2015. La pauvreté a donc explosé.
Pourtant, l'INSEE dit que depuis 2012, le taux et le nombre de pauvres stagnent. Le seuil de pauvreté, calculé en fonction du niveau de vie moyen, a même diminué en 2012.
Alors, Chloé, quelle relation entre croissance, chômage et pauvreté peux-tu établir ?
La relation entre la croissance et le chômage est moins évidente qu'on ne le pense. Une augmentation du PIB n'assure pas forcément une baisse du chômage et les statistiques du PIB ne disent rien sur la qualité des emplois créés qui ne cessent de se dégrader. La précarité s'accroît ainsi que le nombre de travailleurs pauvres qui dépasse le million en France.
François Hollande, qui veut tout faire pour que la croissance soit la plus haute possible, assure que seule celle-ci était à même de faire reculer le chômage. On peut donc en conclure qu'il a totalement faux. Ainsi, depuis le milieu des années 1970, la croissance n'a pas servi à résoudre le problème du chômage, ni de la pauvreté. En revanche, elle a engraissé copieusement le patrimoine des rentiers, des spéculateurs, qui n'ont pas investi les fortunes accumulées dans l'économie réelle. Mettant fin au bon vieux théorème de Schmitt, du nom d'Helmut Schmidt, l'ancien chancelier allemand de 1974 à 1982, selon lequel les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. En effet, depuis ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, les profits d'aujourd'hui sont les chômeurs de demain et les pauvres d'après-demain.
Merci. Donc pour conclure cette émission, on voit bien l'importance du partage de la valeur ajoutée dans le débat économique et social. Il sera sûrement l'un des enjeux pour la future élection présidentielle. Va-t-on vers un partage plus équilibré ? Nous en parlerons dans une prochaine émission.
Au revoir.